et France 24 présentent
Mardi Politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans certains sondages, Marine Le Pen est devancée par Éric Zemmour, dans d'autres, non. L'irruption du polémiste est-il le résultat d'une dédiabolisation qui l'a affadi ?
D'abord, Marine Le Pen est devancée dans un sondage et elle est devant Éric Zemmour et qualifiée pour le second tour dans 99 sondages. Donc il y a un petit équilibre à rétablir. Je veux bien qu'on porte beaucoup d'attention au sondage qui donne Éric Zemmour à un point devant dans la marge d'erreur Marine Le Pen. Je veux bien que ça dise quelque chose.
Dans le traitement médiatique, en tout cas, c'est le gagnant.
En tous les cas, c'est le gagnant parce que il est le produit de la nouveauté, parce qu'il fait irruption dans le débat politique. Moi, je crois surtout que si on veut gagner, il faut se rassembler. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Et c'est le sens aussi du combat qu'on mène.
Il faut se rassembler avec Éric Zemmour.
Il faut se rassembler, c'est-à-dire que tout ce qui divise nous empêche d'aller chercher la victoire et d'aller évidemment battre Emmanuel Macron. Ça doit être notre seul objectif. Moi, je voudrais pas que Éric Zemmour se considère comme une alternative à Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle se considère, elle, comme une alternative à Emmanuel Macron. Et c'est le seul boulot à faire. Donc, celui qui se présente, divise.
Éric Zemmour considère que Marine Le Pen n'a aucune chance, qu'elle ne peut pas l'emporter.
Mais
il considère que lui, il est l'alternative à Emmanuel Macron.
Je veux bien, vous connaissez le proverbe, quand je vois, je me trouve pas terrible, et quand je me compare, je me console. Donc, qu'Éric Zemmour se trouve le plus efficace, etc., c'est son problème. Mais c'est pas ce que disent aujourd'hui les chiffres. D'ailleurs, je note que dans les sondages, puisque vous parlez des sondages, du second tour, Marine Le Pen est devant Zemmour, devant le candidat des Républicains face à Emmanuel Macron. C'est elle qui fait le score le plus haut. Ça, c'est une vue de l'esprit.
Qu'est-ce qui est le plus important pour Marine Le Pen ? Est-ce que c'est son propre destin ou est-ce que c'est le destin de la France ?
C'est probablement le destin des Français.
Oui, enfin, ils se rejoignent quand même en principe, le destin de la France.
Si je dis ça, c'est à bon escient. Oui. C'est que le destin de la France, il est évidemment au-dessus de tout. Le destin des Français, ça veut dire se préoccuper de ce que les Français vivent, de ce que les Français souffrent. C'est une priorité de Marine Le Pen depuis très longtemps. Je m'explique. Oui, le pouvoir d'achat est une priorité de la campagne de Marine Le Pen. Quand Marine Le Pen dit « je veux rendre aux Français leur pays et leur argent », c'est parce que nous avons effectivement une conscience sociale, parce que nous considérons que le macronisme a déstabilisé, divisé le pays et qu'il faut quelqu'un qui répare les dégâts du macronisme. Parce que le macronisme, c'est tout vers cette économie numérisée et uberisée. Parce que le macronisme, c'est la façon de déconstruire l'édifice social.
Sébastien Chenu, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur est-ce que le fait de cette dédiabolisée l'a affadie. On se souvient que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait qu'elle était molle. Je reprends l'expression de Jean-Louis Bourlanges qui dit elle s'est acheté un ticket pour la normalité, en quelque sorte. Est-ce que cette stratégie n'a pas été finalement perdante pour l'instant.
Je crois qu'il n'y a plus que ceux qui sont de parfaite mauvaise foi qui pensent que nous sommes le diable. Nous n'avons rien du diable. Nous faisons une offre politique. Elle est très différente de celle d'Emmanuel Macron et nous l'assumons. En revanche, nos idées, elles ont déjà gagné. Nous avons déjà gagné la bataille des idées. Il y a 30 ans, on a mis 30 ans, le Rassemblement National et tous ceux qui ont construit avant le Front National, 30 ans à mettre l'immigration comme étant un problème central de notre pays sur la table. Pendant 30 ans, on a été couvert d'insultes. On a été couvert d'opprobre pendant toutes ces années. On ne pouvait même pas évoquer le sujet. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec nous, même Michel Barnier, espèce de mollasson absolu, qui a passé toute sa vie à plaider pour l'Union européenne et la dissolution de la France, aujourd'hui dit qu'il faut faire un référendum sur l'immigration. Donc on a gagné la bataille des idées. Maintenant, il faut qu'on gagne la bataille des solutions, les analyses. C'est
surtout la bataille électorale, côté.
Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes les mieux placés pour ça. Moi, si vous voulez, je ne veux pas passer ma vie à faire du témoignage et à faire des constats. Je ne veux pas passer ma vie politique à témoigner, à dire on y va pour le fun, on y va pour la forme, on y va pour la gloire. Non, on y va pour résoudre les problèmes des Français Et je pense que Marine Le Pen, par cette expérience, par ses analyses, par les propositions qu'elle fait aujourd'hui, par sa force de travail, est probablement la mieux placée pour ça.
Mais est-ce que Éric Zemmour n'a pas pour lui, même si auparavant il n'était pas dans le débat public en tant que candidat ou responsable politique, mais une constance, une permanence dans les idées que n'a plus Marine Le Pen, en effet sous l'effet de la dédiabolisation, décidément on aura tous les deux buté sur le mot, qui l'a conduit à adoucir, à planir, voire à renoncer à un certain nombre de choses. Sortir de l'Union Européenne, c'était envisagé, ça ne l'est plus du tout. Ouais. C'est même considéré comme une folie. Quitter le franc, donc qui allait avec. Sortir de Schengen, par exemple. Même Schengen n'est plus considéré comme un problème. Même la Cour européenne de justice. Alors qu'aujourd'hui, d'ailleurs, certains à droite disent oui, il faudrait peut-être y repenser. Donc effectivement, est-ce que vous n'avez pas fait un virage trop à gauche qui aujourd'hui vous a complètement banalisé ?
Au jeu des comparaisons et des évolutions, puisque vous le faites vis-à-vis d'Éric Zemmour, moi je vois qu'Éric Zemmour était pour le Frexit, il n'y est plus. Il était pour le pass sanitaire, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais visiblement...
Il est toujours à peu près pour.
Il est peut-être pour le pass sanitaire, il était pour la remigration, il nous dit qu'il ne veut plus en parler. Donc si vous voulez, il y a des ajustements et des évolutions.
Là-dessus, il conteste le terme, il dit que c'est une mauvaise traduction de l'italien.
C'est pas le mien, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc si vous voulez, non, je pense que le pôle de cohérence, il est là. Grosso modo, quand on vote pour Marine Le Pen, on sait à peu près à quoi s'attendre. On sait son rapport aux questions économiques et sociales, on sait son rapport à l'Europe, on sait son rapport à la sécurité, à l'immigration. Je ne suis pas sûr que quand on vote pour Emmanuel Macron, on sait à quoi s'attendre. Il est libéral, européiste, etc. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que quelqu'un qui serait tenté par le vote d'Éric Zemmour ait bien compris que derrière, il y a une vision très libérale. Je ne lui en fais pas le reproche, entendons-nous. Il a le droit de penser ça. Mais c'est un peu une refusée de François Fillon, quoi.
Vous disiez quelque chose d'important tout à l'heure, il faudra se rassembler. Et justement, Robert Ménard est allé voir donc, le maire de Béziers, qui est proche de Marine Le Pen, a été le voir en lui disant « Il faut que, au mois de février, le mieux placé, c'est-à-dire de Zemmour ou de Marine Le Pen, se désiste en faveur de l'autre. » Mettons, si en février, si on prend ce cas-là, si en février, Zemmour est devant Marine Le Pen, vous faites quoi ?
Mais pour l'instant, je ne vais pas me positionner sur ça parce qu'en fait, c'est nous qui faisons la course en tête. Oui, non, mais d'accord. Mais alors, à ce moment-là, si on est derrière Yannick Jadot, si on est derrière Nathalie Arthaud, on peut tout imaginer. Non, mais je veux dire, derrière Jean Lassalle, est-ce qu'il faudra se rassembler derrière Jean Lassalle face à Emmanuel Macron ? Non, je veux dire, il faut simplement être sérieux. Marine Le Pen, elle défend une vision, mais aussi les intérêts d'un certain nombre de Français que personne d'autre ne défend.
Quoi,
qui défend les classes populaires ?
Oui, les classes populaires, c'est vrai. Et lui, c'est plutôt l'électorat de droite.
Qui défend les gens qui se lèvent le matin pour faire tourner le pays, les ouvriers, les employés, les aides-soignantes, les caissières de supermarchés, à qui on dit vous allez bosser jusqu'à 64, 65, 67 ans. Est-ce qu'on a bien compris qu'il y avait deux modèles de société qui s'affrontaient ? Et Marine Le Pen porte un modèle de société dans lequel la protection des Français est essentielle.
Cette question du mois de février, on peut la poser, et je vais revenir à cette question de destin personnel et de destin de la France. Est-ce qu'il ne sera jamais permis de douter que Marine Le Pen place le destin de la France au-dessus du sien ?
Ah, mais je crois que Marine Le Pen place largement le destin de la France au-dessus du sien.
Donc, tant elle se bat... En toute logique, si effectivement elle était sensiblement derrière Éric Zemmour, elle aurait la lucidité, dans l'intérêt supérieur de la France, de dire...
Pour l'instant...
Je me range derrière.
Pour l'instant...
Vous pouvez me dire, Zemmour ferait la même chose.
On peut tout imaginer, mais pour l'instant, admettez que Marine Le Pen ne fait pas irruption sur la scène politique. Ça fait longtemps qu'elle a construit une offre politique, qu'elle est en dialogue avec les Français, et que celui qui arrive et qui considère, en faisant les mêmes analyses et les mêmes constats que Marine Le Pen, l'immigration est un problème, etc., et qui vient finalement sur ce terrain-là. Parce que finalement, quand on fait les bonnes analyses, il y a plusieurs personnes qui, aujourd'hui, viennent dire « moi aussi, je suis d'accord, mais je propose de faire un peu autrement ». On a des points de convergence avec Éric Zemmour, on a des points de divergence, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Marine Le Pen ne divise pas. Elle est candidate depuis très longtemps et elle cherche plutôt à rassembler. Et d'ailleurs, elle tend la main. J'ai vu qu'elle disait qu'elle était d'accord pour rencontrer Éric Zemmour chez Ménard. Il n'y a pas eu de suite.
Ils se sont parlé ou pas ?
Marine Le Pen a dit à Robert Ménard, moi je suis tout à fait d'accord pour le rencontrer.
Mais pour le rencontrer, il faut
qu'Éric Zemmour accepte de venir.
Est-ce que vous pensez que c'est une bulle qui va faire pchit, comme disait l'autre ?
Non, mais moi j'ai aucun mépris, voyez-vous, parce que je considère qu'Éric Zemmour n'est pas un adversaire. Je considère que ça peut être un concurrent, et on en a eu des concurrents, des Philippe de Villiers, des Nicolas Dupont-Aignan, des Bruno Maigret,
à des niveaux très différents.
Philippe de Villiers ou Jean-Pierre Chevènement avaient commencé à 15%. enfin est arrivé très vite à 15%. On sait comment ça s'est terminé. Donc je n'ai aucun mépris parce que je pense que s'engager en politique est quelque chose d'exceptionnel. C'est, il faut avoir beaucoup de courage pour le faire. En revanche, je pense qu'Éric Zemmour serait bien inspiré s'il veut vraiment battre Emmanuel Macron, de dire bah ok, Marine Le Pen est probablement aujourd'hui la plus compétente. Allons-y ensemble.
Alors en fin de semaine, le porte-parole du gouvernement va annoncer des mesures sur les prix de l'énergie, les questions d'un chèque pour les plus modestes. Mais c'est, visiblement, c'est compliqué à mettre en place parce qu'il n'y a pas de fichier de savoir qui prend plus sa voiture que d'autres. Quelle est la meilleure solution selon vous ? C'est la baisse des taxes ou justement ce chèque énergie ?
C'est la baisse de la TVA à 5,5, notamment sur l'essence, ouais. Mais également sur toutes les énergies, parce que nous considérons que ce sont des biens de première nécessité. Évidemment, le chèque, moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je le dis parce que nous, on l'a testé, nous, les élus régionaux des Hauts-de-France. Xavier Bertrand a mis ça, ça touchait 2% des gens qui allaient travailler en voiture. C'était un truc pour les raisons que vous venez de dire, d'ailleurs. On discernait mal, qui pouvait y avoir droit, etc. Ensuite, c'est financé par les gens qui travaillent et qui eux-mêmes sont déjà impactés. Je vous parlais de cette France populaire qui bosse, qui se lève le matin, etc. Donc eux, on va leur demander de financer un chèque auquel ils n'auront pas droit. Les retraités seront aussi dans les trous de la raquette parce qu'un chèque transport, par exemple, demain, bah, les retraités, par définition, n'y auraient pas le droit. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Il faut une réponse qui soit d'ampleur. Et je pense que cette réponse d'ampleur, c'est la baisse de la TVA à 5,5. Mais c'est également rendre aux Français leur argent, ce que je disais tout à l'heure, rendre aux Français leur pays et leur argent, c'est-à-dire faire baisser les péages, arrêter, mettre fin à la redevance télé. Il y a beaucoup d'argent qui doit revenir dans la poche des Français. C'est un mouvement d'ensemble que considère Marine Le Pen.
Mais baisser la taxe sur les carburants, ça a un coût astronomique pour l'État. Je crois que 5 centimes de baisse sur le litre, c'est 2,5 milliards d'euros de recettes en moins. Est-ce que vous n'entendez pas, par exemple, comme Bruno Le Maire dit, le problème, si on fait ça, c'est que celui qui roule en gros 4x4 et qui n'a pas du tout, d'ailleurs, de difficultés financières, va profiter de cette baisse, de la même manière que celui qui est très modeste et qui roule avec un petit véhicule un peu vieillot.
Deux choses. Déjà, les gens qui seraient les plus aisés et qui en profiteraient, ils ont déjà, de toute façon, accès aux produits qui ont une TVA moindre. Les produits qui ont une TVA moindre, les premières consommations, de première nécessité, ils ont déjà accès à ces produits-là. On ne s'est pas posé la question. Mais il faut compenser, évidemment. Oui, mais... Et nous, nous considérons... Ah. Non, mais il faut trouver une compensation. Que, par exemple, si l'État arrêtait de subventionner l'éolien, et là on est un peu plus de 2 milliards, eh bien on peut faire cet effort qui permet aux Français de retrouver leur argent. Nous on pense que l'éolien est une usurpation, est une escroquerie. Eh bien nous pensons que ce n'est pas à l'État, en tous les cas, français de financer par des subventions l'éolien, et que cet argent serait bien mieux utilisé s'il revenait dans la poche des Français à travers une baisse de la TVA à 5,5.
Sans faire de mauvais jeu de mots, est-ce que cette hausse des énergies et du carburant pour une résurrection, on va dire, des gilets jaunes.
C'est vrai que c'était l'essence était à peu près à ce prix-là, voire peut-être même un peu moins cher. J'ai regardé hier à la pompe, on est à 1,58, quelque chose comme ça, lorsque les gilets jaunes se sont mobilisés. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième série de gilets jaunes. Ce que je sais, c'est que ce gouvernement a laissé se dégrader le pouvoir d'achat des Français pendant tant d'années, et que finalement, il a traité les gilets jaunes avec un certain mépris. Et aujourd'hui, on est revenu à la case départ. Les mêmes problématiques n'ayant pas été solutionnées sur le fond, eh bien, se repose ad vitam aeternam.
Ouais. L'Assemblée nationale examine depuis hier le texte à la demande du gouvernement qui lui permettrait de recourir au pass sanitaire jusqu'à la fin du mois de juillet 2022 s'il estime que la situation sanitaire l'exige. Est-ce que pour vous c'est un mal nécessaire ? Est-ce qu'en effet il faut garder en quelque sorte cette arme à la ceinture pour pouvoir la dégainer en cas de besoin ? Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de faire ?
On nous avait dit le pass sanitaire c'est tant que les Français ne sont pas vaccinés.
Ça servait à fin novembre.
Et donc vous avez dit jusqu'à fin novembre tant que les Français ne sont pas vaccinés. Ouais. Aujourd'hui on a un nombre très important, un peu plus des 3/4 je crois des Français sont vaccinés. Et on veut continuer avec le pass sanitaire. Je pense que ce n'est pas raisonnable. On ne peut pas vivre ad vitam aeternam dans un régime qui soit dérogatoire du droit commun et restrictif des libertés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer sur le Covid, notamment financer la recherche pour trouver un traitement. On le réclame depuis longtemps, le gouvernement n'a pas choisi cette voie. Et quand j'entends qu'on ait certaines dispositions du gouvernement qui dit on va demander un pass sanitaire pour aller skier, c'est retour en absurdie. Là encore, on a le sentiment que c'est toujours retour à la case départ parce qu'on ne solutionne pas les problèmes de fond. Donc continuons avec les gestes barrières, mais débarrassons-nous de ce pass sanitaire qui est trop restrictif des libertés des Français, qui met beaucoup de Français sur le côté.
Donc investissons sur la recherche.
Mais là, au moment où on va voter, c'est-à-dire que nous, demain, nous allons voter, et nous allons voter contre, nous, les députés du Rassemblement national, contre la prolongation du pass sanitaire.
Bon, cela dit, le texte passera.
Et oui, parce qu'il ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas majoritaires encore cette année.
Ça ne m'avait pas échappé. Les états généraux de la justice, peut-être un petit mot. Hier, Emmanuel Macron a lancé ce chantier qui devrait durer des semaines, avec deux objectifs principaux. Restaurer, a-t-il dit, le pacte civique entre la nation et la justice et garantir l'efficacité du service public de la justice. Vous trouvez-vous qu'aujourd'hui, ce pacte entre la nation et la justice est rompu ?
Largement, mais je trouve qu'Emmanuel Macron se moque des Français. Enfin, lancer des états généraux à 6 mois d'une présidentielle, dont les résultats seront communiqués au moment où le Parlement, d'ailleurs, ne siégera même pas, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, les résultats ne seront jamais mis en application, quels qu'ils soient, puisqu'Emmanuel Macron ne sera plus là pour le faire, a priori, et que nous considérons que c'est parce qu'il y a une idéologie laxiste derrière que la machine justice ne fonctionne pas. C'est-à-dire la réponse pénale, notamment, le nombre de constructions de prisons, là encore. Baratin macroniste, hein. On devait construire jusqu'à 40 000 places de prison. S'il y en a 15 000 à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, ce sera le bout du monde. Donc en fait, Emmanuel Macron dresse un écran de fumée sur les problématiques qu'il n'a pas traitées durant son mandat.
Il construit un programme.
Les problématiques où il construit son programme, mais ça, on n'est pas là pour l'aider à faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas traité un certain nombre de sujets. Le sujet du pouvoir d'achat, le sujet de la justice, le sujet de la sécurité, le sujet de l'immigration, et que tout est en train de le rattraper.
Peut-être une dernière question. On a vu le succès qu'avait eu le débat Zemmour-Mélenchon. Certains diront, tous les deux, ils ont un récit national différent, l'un de l'autre, mais en tout cas qui fonctionne et qui plaît. Quel est le récit de Marine Le Pen ?
Vous savez, le récit de Marine Le Pen, c'est celui qu'elle porte depuis des années. Quand je vous le résumais avec rendre aux Français leur pays et leur argent, ça veut dire tout simplement faire respecter la France et respecter les Français. Respecter les Français, c'est un récit. Au moment où nous avons vu la France se mettre à genoux devant l'Algérie, c'est un récit. Faire respecter la France à l'étranger, faire respecter les Français dans leur pays. Et les respecter, ce n'est pas les envoyer bosser jusqu'à 67 ans lorsqu'ils ont bossé toute leur vie. C'est ça le récit national. Respecter la France et respecter les Français. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, elle est probablement la seule à porter ce niveau de respect au niveau auquel elle le met.
À quel moment la France est-elle mise à genoux devant l'Algérie ? À quoi faites-vous allusion ?
Eh bien, lorsque sans arrêt, notamment par rapport au crime de 1961, qui ont été contestés par un certain nombre d'associations. Moi, je pense que cette repentance permanente. Bah,
personne ne conteste qu'il.
J'ai pas dit qu'il y en avait pas eu.
C'est des choses dramatiques cette nuit-là.
Mais bien entendu, je ne conteste pas ça, monsieur.
C'était de le commémorer.
Je dis simplement le fait de sans arrêt se mettre à genoux, demander pardon, véhicule un message qui est le suivant. Comment voulez-vous faire adhérer de jeunes Français à l'histoire de notre pays, à ce qu'il est, aux valeurs de notre
même
pays.
Même quand elle n'est pas glorieuse.
Sans arrêt. Mais dans toutes les histoires, il y a des parts d'ombre.
Là,
et notre pays a des parts d'ombre. Mais simplement faire adhérer de jeunes Français à l'histoire de leur pays, aux valeurs de la République, ce n'est pas sans arrêt dire que la République est juste un ignoble tête-boue.
Merci. Sébastien Chenu.
Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à Charlotte Urien, Thomas Kahr et à Camille Nerand pour avoir préparé cette émission. Et merci aussi à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.
Ce mardi, vivez sur RTL.